Moi, je pense que vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le côté je fais des cercles, je fais des cercles, je répète un geste artisanal, et si je le pousse à l'extrême, en fait, ça devient abstrait et ça dénature complètement la forme que c'est supposé faire initialement. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette répétition-là.
Qui êtes-vous au juste ? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie ? On dit que vous êtes un brassin sans jupon.
Relaxé.
On aimerait tellement ça relaxer.
Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
Bonjour, ici Stéphanie Gaulin, réalisatrice et animatrice du podcast Les Impostures, un projet né à Montréal en 2021. Vous écoutez le premier épisode de la troisième saison, une saison spéciale réalisée à Marseille. Le concept reste le même, donner la parole à des artistes pour parler du processus créatif derrière une de leurs œuvres, et ce, dans une perspective féministe. Aujourd'hui, je suis dans les studios de Razo Galère à la Friche Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille, accompagnée de ma première invitée, la céramiste Eva Tellier. Bonjour Eva.
Hello.
Donc, à moi l'honneur de te présenter aux auditrices et aux auditeurs. Eva, tu es une artiste plasticienne d'origine franco-australienne. Tu es née en France, à Soissons. En 2020, tu as gradué en Studio Arts à l'Université Concordia à Montréal, où tu as vécu pendant 6 ans. Tu as fait différentes résidences en Alberta, dans les cantons de l'Est et au Danemark. Tout ça en céramique, médium qui te passionne et sur lequel se concentre ta création. Ta spécialisation initiale au début de tes études, c'était en fiber arts et textile, une pratique qui continue de t'influencer aujourd'hui dans ton travail. Tu t'intéresses aux techniques, matières et médiums associés à l'artisanat, aux décoratifs, à l'ornement et donc à la déconstruction de la dichotomie qui en fait un art mineur, essentiellement féminin, là je mets des gros guillemets, en opposition encore en guillemets aux beaux-arts plus associés au masculin. En septembre 2022, tu quittes le Québec pour venir t'installer à Marseille, ce qui nous permet d'introduire cette saison. Alors, je voudrais te demander, en tant qu'artiste et artisane, qu'est-ce que tu trouves dans cette ville?
Alors, déjà, déménager à Marseille, c'était une décision que j'ai prise parce que, bah, déjà, je suis française et j'avais envie de ramener tout ce que j'avais appris au Québec et comment j'avais pratiqué, du coup, mon art en apprenant d'abord des techniques artisanales. Et j'avais envie d'explorer ce côté-là en France parce que je ne connaissais pas du tout. Et Marseille, c'était un bon point de départ parce que je pense qu'il y a un peu plus d'ouverture par rapport à ça et plus de terrain pour créer et ramener des nouvelles pratiques singulières.
Ça se différencie du reste de la France, selon toi, cette ville ?
Ça se différencie dans le sens où je pense que c'est une ville qui est en perpétuel changement tout le temps. Donc peut-être qu'il y a plus d'opportunités pour l'innovation ou de nouvelles réflexions. Peut-être que des villes plus, traditionnelles, plus conventionnelles permettraient moins ça. Je sens qu'il y a un côté rebelle chez Marseille qui peut aider.
Puis tu travailles aussi, on l'a pas mentionné dans l'introduction, à Marseille, à Coco Velten, une association où est-ce qu'il y a aussi une grande place à l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi que tu fais à Coco Velten? C'est quoi
J'ai passé 7 mois donc à Coco Velten, qui est un tiers-lieu, on appelle ça comme ça, en France, où il y a un hébergement social qui héberge 80 personnes. Qui ont soit des problèmes de papier, soit qui sont juste en difficulté en général. Plus une cantine associative, plus une salle de bricolage, plus des ateliers bureaux, dont un atelier de céramique dans lequel je fais partie. Et c'est surtout des associations. Et donc là encore, Marseille, pour ça, c'est super riche en vie associative. Et ce que je faisais là-bas, c'était un service civique, donc c'était vraiment axé sur la programmation du lieu et les événements culturels. Mais j'ai vraiment super beaucoup investi le côté associatif dans le studio de céramique qui s'appelle Terre-Terre. Et c'était génial de pouvoir ouvrir l'atelier à des publics qui n'ont pas du tout accès à la céramique, par exemple, qui est un médium super hype et qui coûte cher. Et donc, avec les résidents, les gens de la résidence sociale, j'ai fait plusieurs ateliers et c'était trop, trop, trop chouette, cet échange-là.
Il y a beaucoup d'ateliers de céramique à Marseille. C'est quand même une pratique qui est commune ici. Est-ce que tu as trouvé une différence avec Montréal au niveau de la communauté de céramistes?
Je pense qu'il y a vraiment
tellement d'engouement par rapport à apprendre une technique artisanale, un peu retrouver le savoir-faire manuel, etc., que comme partout, il y a des ateliers de céramique qui naissent à chaque coin de rue. Mais c'est super... c'est pas toujours super accessible. Et surtout, en fait, c'est super axé poterie et vraiment plus faire des objets fonctionnels et tout, ce qui n'est pas... moi, mon axe central, et c'est vraiment ça que je fais dans les ateliers, c'est de pas faire, c'est d'ouvrir des ateliers qui sont pas juste on fait un petit bol et tout, mais vraiment plus des projets collaboratifs où au final chacun apporte, fait une petite pièce et ça fait une plus grande pièce collective.
Puis ça, c'est plus qu'est-ce que t'as ramené de Montréal, l'aspect conceptuel et non pratique en céramique?
Bah vraiment, je pense que ce côté-là dans la sphère de l'art contemporain en France, j'en vois de plus en plus et je sais que ça va être juste, ça va aller en grandissant, mais c'est vrai que en France, on est plus connu pour la céramique, l'art de la table, on est super fort en ingénierie et tout ça. Alors qu'au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont un temps d'avance par rapport à juste l'aspect sculptural de la céramique et l'aspect monumental et juste vraiment ça a intégré l'art contemporain depuis longtemps, depuis toujours en fait.
C'est justement de cet aspect-là de ton travail aussi dont on va parler pendant tout cet épisode. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de discuter de la série d'œuvres qui s'appelle « A Circle is a Hole », on va aller dans une petite intermède musicale, comme je le faisais la saison dernière à Montréal, avec une chanson que tu as choisie pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire quelle est la chanson et nous expliquer ton choix?
Alors la chanson, elle s'appelle « Endors-toi » de Tame Impala et c'est une chanson que j'ai choisie parce que je l'écoute depuis que je suis ado et qu'en fait, la réécouter, elle est super tripante et planante et donc ça me remet vraiment dans le mood où j'ai plein d'images et plein de motifs et un peu psychédélique parce que les motifs, c'est vraiment mon truc. Mm-hmm. Et c'est un groupe australien qui a passé du temps en France et qui a fait cet album avec un des musiciens qui est français. Donc pour moi, ça représente bien ma biculture aussi.
Allons-y. We'll be right back. Eva, l'épisode est consacré à la série A Circle is a Whole, qui réunit près de l'ensemble de tes structures de céramique autour d'une technique et d'une réflexion commune qu'on va toutes explorer pendant les prochaines, la prochaine heure. Donc, le point de départ de cette série d'œuvres, c'est dans un cours à Concordia, à Montréal, en Fiber and Material Practices, où est-ce que tu as découvert une technique de perlage avec de la gélatine. Est-ce que tu peux nous mettre en contexte de cette découverte?
Alors déjà, ce cours-là, c'est un peu... aussi quelque chose qui n'existe pas trop en France. Donc, c'est intéressant pour moi de l'introduire un peu. Mais c'est tout ce qui est par rapport aux fibres et l'utilisation des fibres et du textile dans l'objectif de créer des installations ou des œuvres qui explorent des idées. Et en fait, dans ce cours-là, on pouvait un peu utiliser ce qu'on voulait. Et moi, je crois que... en fait, je voulais créer le médium lui-même. Donc, par exemple, dans les techniques textiles, y a le perlage qui, dans tellement de cultures différentes, ça a été... on a vraiment des vraies techniques artisanales de perlage. J'ai voulu créer moi-même la perle. Donc, je me suis dit quel matériau je pourrais utiliser pour ça. Et ensuite, ça partait d'une envie de peut-être créer une installation comestible et tout ça. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai trouvé l'idée de la gélatine. Et ça marchait super bien parce que je pouvais faire des toutes petites perles. Et je pouvais faire répéter ça un million de fois. Et ça me mettait un peu en transe en plus quand je le faisais. C'était vraiment, j'ai passé des nuits et des jours à faire ça. Mes collègues peuvent en témoigner à Montréal. Et la couleur et la transparence du matériau, ça marchait bien. Ça rappelait la chair. Parce que c'était toute une réflexion autour des ornements. Et ce besoin et cette habitude qu'on a culturellement, historiquement, dans plein d'axes différents, à ornementer notre peau et à ornementer les choses dans notre environnement. Je suis super intéressée par cette idée d'ornement. Donc, un truc qui rappelle un peu les bijoux et tout ça.
Puis c'est quoi qui a fait la transition vers la céramique? Parce que là, t'étais dans un autre domaine complètement. Et c'est quoi le déclic qui s'est fait? Comment ça s'est produit?
Déjà, je me suis tournée vers un peu de la gélatine, donc un truc super malléable, super, qui peut prendre plusieurs formes et qui a un peu un processus de transformation aussi. On mélange un truc, après on le cuit. Et en même temps, en parallèle, dans ma dernière année, donc ça c'était le projet de fin d'année que je préparais pour l'expo de Fibers. Et après, j'avais la céramique à côté et ça se complétait vachement bien. Parce qu'en céramique, j'étais en même temps en train de faire une sculpture super... grosse avec des petits points partout et donc qui rappelait la chair de poule. Ce truc de texture, ça a pris une place importante super rapidement dans ma pratique. Et la céramique, je pense que c'est vraiment le médium que j'ai trouvé qui était le plus adapté pour ça. Donc après, ça a été principalement me concentrer sur trouver ce truc un peu viscéral, un peu entre l'attractif et le répulsif, un truc beau. Mais un peu dégueu aussi en même temps. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de manières possibles de traiter cette matière-là.
Puis le faire avec des perles, justement, c'est... T'as juste transposé cette technique de la gélatine à la céramique et t'en as fait des structures.
C'est ça. En fait, je me suis dit, mais... En fait, la perle, l'objet en tant que tel de la perle, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un objet qui n'existe pas vraiment individuellement, qui est tout seul à... pas vraiment de sens, mais accumuler et répéter à l'infini, ça devient quelque chose de beaucoup plus grand et ça prend tout son sens. Donc en céramique, j'ai voulu faire la même chose. Et au lieu de le mettre à la surface, vraiment l'utiliser comme élément structurel, quoi, pour que ça devienne vraiment l'architecture de ma pièce plutôt que juste quelque chose qui est un détail. Et là encore, c'est toute ma réflexion autour de remettre ça au centre.
Ensuite, c'est ça, t'as fait deux résidences au Danemark, une à l'été 2021 et une à l'été 2022. Puis si j'ai bien compris, c'est à ces moments-là que t'as vraiment pu explorer, en résidence, t'as aussi plus l'espace pour explorer des techniques, puis avoir tout ton temps consacré là-dessus. C'est quoi que t'as appris? Qu'est-ce qui a nourri dans ces résidences-là? Ça peut être autant la première que la deuxième, mais si on va plus dans l'ordre chronologique, la première résidence, comment ça l'a fait avancer l'idée de... la construction de ces structures avec la perle?
En fait, au Danemark, c'est là où j'ai réalisé qu'un des points centraux de ma pratique, c'était vraiment d'imaginer des nouvelles manières de construire des formes avec la céramique. Il y a tellement de possibilités infinies avec ce médium-là que je me suis dit, on peut faire dans l'action négative, en fait. Au lieu de construire avec des grosses partie, on peut en faire en miniature. En fait, on peut tout renverser, quoi, le sens de comment on va construire la forme. Et donc, c'est là que j'ai exploré ça. Puis ensuite, quand je suis allée en Alberta, l'hiver d'après, là, j'étais vraiment, vraiment focus. Genre, je transforme l'argile elle-même, je mets du papier dedans, je mets des pigments, enfin, je réadapte toute ma recette et tout pour que ça soit le plus adapté à une structure qui est aussi vulnérable que celle-ci, parce que c'est quand même un peu casse-gueule comme technique. Mais ouais, non, les résidences, ça m'a vraiment permis d'explorer le côté technique qui prend une place super importante.
Je pense que c'est l'idée de la céramique, comme tu disais au début, c'est d'en faire des... Comme en France, on en fait plus des objets utilitaires. Mm-hmm. Mais toi, justement, tu renverses ce sens-là. Tu en fais des objets vulnérables qui sont dysfonctionnels.
Ouais, dysfonctionnels, j'aime bien ce mot parce que c'est complètement ça. Ils servent vraiment à rien d'autre qu'à être eux-mêmes et à être... et à exister pour créer un peu un paysage, quoi, de ces formes-là. En fait, l'objet, c'est vraiment juste un peu un prétexte et un support aussi pour pouvoir faire ça et parler d'autres choses, quoi, qui sont plus en lien avec le vide, le rempli, enfin, laisser passer la lumière. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont... C'est des choses que je réinterprète avec ces différentes techniques-là.
Mm-hmm. Puis le cercle aussi, ça rejoint le cercle de la perle, le cercle aussi de la forme plus globale.
Ouais, bah en fait, au début, je me suis vraiment dit, mais je répétais des cercles comme ça pour faire mes pots, et je faisais des colombins, ça faisait des cercles. Puis je me suis dit, mais si je reprends le cercle et que j'en fais un plus petit et que je le répète à l'extrême, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, juste l'idée de reprendre le geste artisanal traditionnel qu'on fait tous dans la céramique, tous les céramistes... beaucoup utilisent la technique du colombin et je me suis dit c'est intéressant de le transformer et que ça devienne carrément une autre technique, quoi.
Souvent quand on parle d'art visuel, ben, clairement les gens peuvent aller voir aussi sur les réseaux ton travail, les liens vont être disponibles, mais pour qu'on puisse visualiser comment tu procèdes, là tu disais la technique des colombins, bon si je sais bien c'est comme des grands, ben, j'ai pas les termes, mais tu sais des grands...
Ouais, comme des grands boudins en fait.
Des grands boudins de céramique. Alors ce que tu fais c'est quoi, tu t'en fais des colombins, tu les divises après, tu les mets en perles, comment tu la construis? Avant même de la construire, comment tu la réfléchis? Tu fais un dessin? Tu fais du 2D au 3D? Comment ça se passe pour...
Bah, c'est ça, en fait. C'est une technique super pragmatique, dans le sens où c'est vraiment... Tu fais un colombin et ensuite tu l'appliques et tu fais ta forme. C'est assez direct, quoi. Mm-hmm. Mais si tu planifies pas vraiment ce que tu fais, ça peut devenir beaucoup plus intuitif. Et moi, je pense que vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le côté je fais des cercles. Je répète un geste artisanal. Et si je le pousse à l'extrême, en fait, ça devient abstrait et ça dénature complètement la forme que c'est supposé faire initialement. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette répétition-là.
Puis tu les imagines comment, tes structures? Est-ce que c'est vraiment sur le vif ou tu sais, j'ai vu sur ton Instagram, tu fais quand même des dessins, tu...
De plus en plus, je fais des dessins parce que c'est jamais des pièces qui existent toutes seules. Donc, elles ont souvent cette caractéristique de pouvoir s'emboîter ou un peu comme des puzzles géants et aussi comme des perles, en fait. C'est vraiment ce truc de... J'ai envie de les enfiler les unes sur les autres comme des perles sur un collier ou sur un fil, et qu'elles prennent un sens tout autre que juste l'objet du pot. Parce que souvent, on me demande « Ah, mais tu fais des vases ?» Et je suis en... Oui, carrément, enfin, c'est vraiment des vases. « Ah, mais donc on peut mettre des fleurs et tout ça ?» Je suis « Bah, ouais, complètement, c'est le but aussi. » Mais j'aime bien jouer avec cette ambiguïté-là de, en fait, elles ont comme une vie parallèle. Elles existent toutes seules, mais quand je les crée, c'est toujours en fonction des autres. Et donc là, maintenant, je fais des dessins de plus en plus pour que juste ça marche d'un point de vue mécanique. Ouais. Mais tout ce qui est l'ornementation, tout ce qui est la texture et tout ça, c'est vraiment des choses que je pense que je découvre parce que je découvre en faisant, vraiment. C'est tellement une technique qui est, par essence, assez intuitive.
Tu parles d'ornement, puis c'était justement là que je voulais aller parce que tu considères l'ornement comme un langage en soi. Il y a un livre de Owen Jones qui est comme un peu ta bible de la création, ton livre référence, dans lequel on retrouve tous les types d'ornements par époque, géographie, religion, comme par exemple les ornements romains, byzantins, italiens, celtiques, etc. Puis justement, puisque c'est ton livre de référence, dans cette série-là, ben, l'ensemble de ton travail, A Circle is a Whole, qu'est-ce que a le plus influencé ta recherche? Comment tu t'inspires de ce que tu vois dans ce qui a déjà été fait en ornement?
Ouais, déjà ce livre incroyable, magnifique, parce que pour tous ceux qui aiment l'histoire des motifs et tout, c'est vraiment trop une référence. Et surtout, j'adore le titre, La grammaire des ornements, ça exprime trop cette idée que moi j'ai par rapport au pattern, au motif, à l'ornement, qui est vraiment un peu un vocabulaire visuel, quoi, que je crée en fait au fur et à mesure, et que en explorant différentes façons de traiter la surface de mes pièces ou la structure, j'ai l'impression de développer moi-même mon abécédaire de motifs. Après, ce qui est des influences, je pense qu'en allant dans différents endroits en résidence, comme au Danemark, le folklore scandinave, ça a vachement influencé un petit peu mon esthétique à un moment donné. Mais après, je pense que, enfin, moi, j'ai vraiment cette impression qu'on a des motifs dans notre tête, quoi, et que c'est assez universel, ça, et que ensuite chaque culture a vraiment su décliner en fonction des plantes ou des... Et en fait aussi l'idée de ramener l'extérieur à l'intérieur, parce qu'en fait on a toujours fait ça, de s'inspirer du monde extérieur, du monde naturel, organique, et ensuite on le graphise, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on le rend plus design graphique, on a toujours fait ça. Donc là, ce livre-là, il répertorie vraiment depuis la nuit des temps comment on a fait ça, et ça, à la fin du livre, ça réouvre sur... comment imaginer les prochains ornements, et comment, en fait, il y a des codes. Il faut toujours un peu se référer à des structures et des géométries qui existent déjà dans nos plantes. Voilà.
Mais un ornement, concrètement, c'est comme ce qui décore les objets quotidiens, c'est ce qui décore les tapisseries, c'est...
À l'origine, oui, mais moi, j'aimerais vraiment le pousser plus loin dans... En fait, beaucoup de choses peuvent devenir ornementales. Et j'aimerais continuer à en imaginer d'autres. Moi, mon envie, c'est vraiment d'en créer des nouveaux et que l'ornement devienne un vrai support de narration. Donc, qu'à travers cette décoration-là, ce ne soit pas juste décoratif, et que ça sorte de la sphère juste art déco, et que ça devienne plus conceptuel, et que ça... Ouais, ça soit des histoires autour de l'écologie, donc reprendre cette idée de retrouver des motifs naturels et tout ça, et ça peut parler de problématiques plus actuelles, quoi, comme le féminisme, comme l'écologie, enfin, j'aimerais vraiment ça.
Justement, la céramique, c'est tellement vieux aussi, les techniques de cuisson sont tellement vieilles, c'est pas de rapport à l'écologie, etc. Moi, je me demandais quand même, est-ce que tu le sais quand tu travailles de l'argile, quand tu travailles ta matière première, d'où elle vient? Je sais que tu expérimentais aussi dans les résidences de création plein de sortes de cuissons qui datent des millénaires, qui viennent du Japon ou d'ailleurs dans le monde. Puis comment ça influence la structure? Est-ce que tu sais comment tu vas la cuire? Est-ce que tu sais il y a aussi, c'est la première étape, choisir l'argile. C'est quoi ton rapport avec cette matière première-là et la façon dont tu vas la transformer en structure avec le four à cuisson?
En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression que les choix techniques vont vraiment influencer aussi le sens que ça peut donner aux pièces. Comme tu dis, par exemple, cuire une pièce dans une cuisson qui existe depuis, qui est ancestrale, une cuisson japonaise, par exemple, que j'avais eu la chance d'expérimenter avec un ami à moi, italo-japonais. Il m'avait montré cette technique-là, et c'est une cuisson où vraiment sur 35 heures, il faut nourrir le four à feu de bois, et il n'y a pas de glaçure dessus, c'est vraiment juste les cendres du bois qui font des effets, les flammes viennent dessiner sur la surface, viennent ornementer les pièces. Donc c'est, en fait, même ça peut carrément changer le sens du travail. Moi, je pense que ça m'intéresse d'explorer ça plus. Après, ce qui est du choix de l'argile, moi, j'aime bien travailler avec des argiles qui sont vraiment rouges, parce que je sais pas, je pense que visuellement il y a un contraste, tu vois, qui est hyper intéressant, et puis j'aime bien aussi juste garder le côté terre, quoi, que ça soit pas trop transformé. Et puis l'émail, c'est difficile en fait de trouver des bonnes couleurs et tout ça, donc parfois ça change carrément toute l'énergie de la pièce de mettre de l'émail. Donc en fait, là, pour l'instant, j'ai beaucoup plus privilégié la forme, la structure, la texture, plutôt que la couleur émaillée. Et l'argile, là, en ce moment, par exemple, que j'utilise, elle vient d'Aubagne. Donc, juste à côté de Marseille. C'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup d'argile. Et donc, ils en vendent pas mal là-bas. Ensuite, quand j'étais en Alberta, l'argile, elle venait de Medicine Hat. Donc, juste à côté du centre de céramique dans lequel j'étais. En Scandinavie, ça venait du Danemark. Enfin, en fait, à chaque fois, ça vient de pas loin parce qu'il y a de l'argile partout, en fait.
C'est un art qui est assez écologique en soi. C'est...
Bah, pas vraiment, parce que avec les cuissons, malheureusement, même avec tout le bois qu'on utilise pour les fours à feu de bois, et aussi les gaz qui émanent des cuissons, et puis tous les oxydes qu'on utilise, on utilise quand même beaucoup de cobalt et tout ça. Donc c'est clair qu'il y a des réflexions à avoir par rapport à cet usage-là. Après, c'est compliqué, quoi. C'est toujours le rôle des artistes là-dedans.
Mais tu parlais de couleurs aussi, puis j'avais remarqué sur ton Instagram que des fois, sur certaines pièces, tu créais des mini tuiles de couleurs que tu allais coller sur... Est-ce que ça, c'est... t'es encore en train d'explorer ça? Comment tu disais que tu voulais garder des fois la couleur de la terre, de l'argile, de tes structures, mais des fois, quand tu appliques des glaçures, la couleur commence à... Est-ce que tu le décides au préalable, ou c'est comme quand tu vois ta structure, tu décides, tu penses qu'il manque quelque chose, puis là, tu veux expérimenter avec... avec les couleurs? C'est quoi ta relation, en fait, avec la couleur et tes structures?
Je pense que, moi, ce qui me fait vraiment... Enfin, ce que j'aime trop dans utiliser de la couleur, c'est juste mélanger, faire de la cuisine un peu avant et trouver un peu la recette qui va faire que c'est un peu différent des autres céramiques et tout, parce qu'il y a les couleurs industrielles, puis après, il y a les recettes que tu peux mélanger toi-même et tout. Il y a une infinité de possibilités, mais en fait, on ne sait jamais trop comment ça va sortir. Donc, je te dirais que honnêtement, c'est assez spontané, quoi. Le choix de couleurs et tout ça, ça dépend pas que de moi.
On en a parlé dans l'introduction, on en a parlé un petit peu dans les dernières questions, mais je voulais vraiment qu'on prenne le temps de parler de justement tout le mouvement d'artisanat. Tu dis que tu te revendiques d'un peu du mouvement, des principes du mouvement Arts and Craft. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce mouvement-là, puis comment ça t'inspire?
Donc, le mouvement Arts and Craft, c'est vraiment un mouvement qui prône vraiment l'idée qu'il faut que l'artisan ait du plaisir dans ce qu'il crée, et c'est cette envie, en fait, aussi de décorer chaque chose qu'on crée versus l'industrie qui va nous un peu nous pondre des formes super minimales et où il y a rien dessus, et qui perd en fait tout ce qui est exploré dans le livre de Owen Jones. Tout ça, en fait, ça tend à disparaître, je pense, à disparaître, parce que les modes changent, etc. Mais c'est en fait il revendique que ça a un vrai sens de décorer notre environnement et de continuer à faire les choses manuellement et tout ça. Donc moi, ce qui me passionne le plus dans ce mouvement-là, c'est vraiment William Morris, cette figure-là, parce qu'il était super politisé dans le mouvement socialiste, et c'était intéressant les parallèles qu'il faisait entre l'artisanat et le socialisme.
C'est un artiste, William Morris?
Lui, il faisait beaucoup de patterns sur des papiers peints et des prints. Et il était artiste et poète. Ça m'intéresse beaucoup. Après, il y a aussi le mouvement Pattern and Decoration, et ça, c'est un mouvement qui... Je me sens encore plus descendante de ce mouvement-là, parce que c'est principalement des femmes qui étaient dans ce mouvement-là, et c'était vraiment cette idée que l'ornement n'était pas opposé au conceptuel, et qu'en fait, c'est un langage qui exprime des choses super intéressante aussi.
Puis en soi, c'est aussi relié à une pensée féministe, parce que on associe toujours justement l'art conceptuel, les beaux-arts abstraits à quelque chose de, je sais pas, de plus intellectuel, de plus engagé, qui est associé justement, qui est dominé plus par les hommes, alors que le geste artisanal la fabrication d'objets plus intégrés dans notre quotidien, c'était plus relégué aux femmes.
Exact.
Puis ça, comment t'en es arrivée à...
Je trouve que c'est intéressant ce que le mouvement Pattern and Decoration a apporté par rapport à ça, parce que c'était vraiment juste, en fait, les pratiques qu'on fait à l'intérieur de nos maisons, on les met dans la sphère de l'art contemporain, et ça s'est revalorisé. Et donc, en fait, revendiquer ça, c'est revendiquer nous aussi en tant que femmes artistes. Et moi, je me sens, comme je te disais, je me sens descendante de ça, dans le sens où j'ai envie de poursuivre ça, cette idée-là. Après, ça sera différent parce que ce mouvement-là a existé à une certaine époque et là, tout est en permanente évolution par rapport à l'usage de l'artisanat et tout ça. Ça, c'est vraiment, il y a des codes qui sont quand même vraiment en train d'être brisés déjà. Mmh. Mais dans ce mouvement-là, ouais, c'est super intéressant comment elles reprennent des motifs de papier peint et sur des textiles. Enfin, toutes ces techniques-là qui sont vraiment associées à la sphère domestique et le monde intérieur en fait, et qui ne sont pas sorties à l'extérieur.
Est-ce que tu sais si dans les musées, comment c'était reçu à l'époque? Ça, c'était dans les années 60, si je me trompe, ce mouvement-là.
Ouais. Je pense que elles étaient. Il y a eu des hommes aussi dans le mouvement, mais c'est quand même pas mal féministe parce qu'il y a eu des artistes comme Myriam Shapiro ou Betty Woodman qui sont vraiment des pionnières et qui vraiment revendiquaient ça, quoi, la pratique des disciplines associées aux arts mineurs et féminins. Et je pense que c'était plutôt bien reçu parce que c'était vraiment intéressant, quoi, la mixité de couleurs, de textures et tout ça. Mais bon, c'est quand même super, vraiment associé à un truc de femme.
Ouais. Les objets que tu fabriques ou que associés à l'artisanat, c'est des objets qui n'ont pas nécessairement à vocation toujours d'être... Tu sais, les fondements de cette pensée-là, des fois, c'est de dire que l'art devrait être intégré au quotidien. Il n'est pas fait nécessairement pour être admiré derrière une vitre. Mm-hmm. Il est fait pour être dans nos vies. Alors... Comment tu, idéalement, voudrais que tes œuvres existent dans l'espace?
Je pense que déjà, l'idée de créer des motifs qui sont dans le prolongement de ceux qui existent déjà, un peu pour le futur, un peu des motifs futuristes, qui du coup aborderaient des sujets un peu plus graves que juste... des sujets un peu plus sensibles, quoi, que juste l'aspect décoratif. Donc ça, ce serait un peu une première manière pour moi de l'intégrer, de... flouter la frontière vraiment entre beaux-arts, artisanat, et ensuite dans l'espace public aussi, les mettre plus à l'extérieur, que ça sorte de l'intérieur, et vraiment présenter mes pièces sous forme d'installation, donc vraiment en groupe, quoi, qui montre ce paysage-là un peu utopique et qui est modulaire aussi, parce qu'elles peuvent s'emboîter les unes dans les autres, mes pièces, et donc ça serait vraiment un peu créé comme un nouvel espace. Et qui explore toutes ces problématiques-là. Et ensuite aussi, juste ouvrir l'artisanat et utiliser le savoir-faire comme un truc qui peut regrouper les gens ensemble. Ça, c'est vraiment une idée que j'ai envie de pousser le plus possible parce que on fait vraiment communauté dans la communauté des céramistes. Enfin, il y a tellement d'entraide et même juste le partage des techniques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, m'a vraiment fait encore plus aimer le médium. Et donc ça, j'ai envie de l'appliquer à un échange qui est au-delà de juste entre céramistes. Et donc oui, ça passerait par se regrouper autour du savoir-faire.
C'est drôle parce que ça rejoint vraiment aussi le titre de ton travail, A Circle is a Whole. La façon dont tu construis tes structures, c'est qu'elles vont toutes ensemble. Donc il y a toujours cette idée-là du cercle communautaire dans la façon de fabriquer les œuvres, dans la façon de justement les exposer. Comment ça s'est... formulé pour toi comme motif récurrent ou comme titre?
Le titre, c'était un peu un jeu de mots aussi, parce que du coup, le cercle, c'était... J'avais l'impression de faire que des cercles, quoi. Vraiment d'être dans ce truc un peu super cyclique. Même le cycle, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et ensuite, as a whole, en fait, je me suis rendu compte qu'elles allaient toutes ensemble, elles existaient vraiment mieux toutes ensemble, et même autour des objets, comme la perle, qui n'ont pas trop de sens toutes seules. Et je l'élèverais à cette métaphore-là, moi, en tant qu'artiste, quoi. Toute seule, ça a moins de sens. Et en fait, je sais que je peux construire des choses beaucoup plus intéressantes, des projets beaucoup plus, beaucoup plus pertinents dans la communauté. Et ensuite, whole, c'est l'entièreté, quoi. Et aussi, c'est aussi des trous. C'est un peu un homonyme avec le mot trou, et parce que le cercle, je le fais aussi dans l'action négative de enlever de la matière, donc en fait ça jouait avec plein de d'aspects de ce projet-là, et dans l'idée on agrandit le cercle, quoi.
Sur ce, avant d'aller vers la suite de l'entrevue, de l'émission, du podcast, tu as choisi une deuxième chanson pour nous. Est-ce que tu peux nous introduire cette chanson-là?
Ben, je pense qu'elle arrive à un bon moment parce que j'ai abordé le côté un peu nature et monde de l'extérieur. C'est une chanson qui s'appelle Snail's Lament et c'est la lamentation des escargots et de comment ils sont, on construit nos maisons sur eux, alors qu'eux, ils se baladent avec leur petite maison sur le dos.
Et s'il y a un cercle sur eux.
Ouais, c'est une petite spirale et exactement.
Tout est dans tout. Belle.
Tout est dans tout.
Les impostures parce que à la fin de chaque entrevue, je demande à l'artiste invité quel est son rapport au sentiment d'imposture, parce que le but, c'est aussi de décortiquer c'est quoi les barrières systémiques et internalisées qui nous empêchent de réaliser nos projets ou juste de se sentir à l'aise d'en parler. Le but du projet, c'est de laisser cet espace-là aux voix qui sont souvent plus silencieuses dans l'espace public, d'avoir l'espace pour vraiment se mettre de l'avant et dire que nos projets sont importants. Eva, toi, tu es au courant de toute cette dimension-là. Je te pose la question, est-ce que ça t'arrive de te sentir impostrice? Qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment-là d'imposture?
Oui. La réponse est oui. Évidemment que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient souvent, surtout quand on essaye de créer des nouvelles choses et que, enfin, ouais, quand on a l'impression de vouloir poursuivre des choses qui ont déjà été entamées. Enfin, dans l'art, on fait tout le temps ça. Je pense que parfois, c'est difficile de se dire « Ah non, mais c'est important quand même » ou « Ça n'a pas déjà été fait » ou « Enfin, faut le faire, quoi ». Après, ce que je fais avec ce sentiment-là, je pense que je l'ignore le plus possible. J'avais écouté une artiste que j'admire beaucoup un jour qui disait le rejet et tout ça. Enfin, c'est des choses qu'on rencontre tellement dans la carrière d'un artiste que faut juste mettre de côté, quoi. Faut ignorer. Donc, j'essaie le plus possible de éteindre les petites voix qui disent. Ah non, c'est pas intéressant ou c'est pas important. Et puis, le questionnement de la place de la céramique dans la sphère art contemporain, je pense que parfois ça aussi, c'est un peu un truc avec lequel je deal un peu. Est-ce que c'est, surtout plus en France, est-ce que c'est vraiment considéré comme une forme d'art valable et tout ça? Donc, ouais.
C'est en train de bouger, selon toi, ça?
Oui, vraiment. Et je pense que. En fait, c'est l'histoire aussi qui porte ça. C'est pas forcément la réalité encore, mais je pense que il y a encore plein de choses à faire et je suis hyper excitée aussi de pouvoir participer à ça. J'ai l'impression que ça va bouger et que ça va juste être de plus en plus intéressant pour les céramistes et on va pouvoir tous se mélanger beaucoup plus. Et l'interdisciplinarité, c'est quand même vraiment vraiment actuel, donc. Je ne sais plus quoi faire.
Qu'est-ce qu'il y en est justement avec la suite de ce projet-là, de tes structures? Est-ce que tu penses aller dans une autre forme, dans une autre, sortir du cercle un jour? Qu'est-ce qu'il y en est avec, mettons, est-ce que la boucle est bouclée ou...
Non, la boucle n'est jamais bouclée, ça c'est sûr. Mais en même temps, je me dis que mon objectif là, c'est vraiment d'agrandir ce cercle entre artistes, tout simplement, et de continuer à partager ce que je sais de la céramique. Déjà, c'est que le début, mais j'ai vraiment envie de le démocratiser un peu plus, et comme je disais tout à l'heure. Et ça passe pour moi aussi par créer un lieu ou créer une asso. Mmh. Donc là, ça, c'est un peu le projet sur lequel je me concentre aussi, avec une super amie à moi que j'ai rencontrée à Marseille, qui elle, a aussi vécu un peu à l'étranger et tout, et elle a un parcours de designer. Donc, ça rejoint aussi ce truc de vouloir casser un peu les frontières entre toutes les disciplines. Et en fait, on monte une asso toutes les deux. Voilà, Marseille m'a vraiment apporté ça, m'a vraiment fait découvrir toute la richesse de la vie associative. Et donc là, on monte une asso. Et voilà, stay tuned, quoi. Ça va être une manière de pouvoir partager ça encore plus.
Et là, tu parlais de ce que Marseille t'avait apporté, mais tu vas quitter Marseille bientôt aussi pour de nouvelles aventures. Tu vas poursuivre tes études aux États-Unis.
Ouais, donc l'idée, c'est de ramener ça qui est plus avancé aux États-Unis, donc tout l'aspect vraiment artisanat comme forme d'art et la technique vraiment, vraiment centrale à la pratique et ramener ça en France un peu plus et ouvrir un lieu où ça existe. En fait, le côté plus social en France aussi, je pense que j'ai envie d'intégrer ça parce que c'est un peu comme si ça s'était pas encore rencontré. Le côté on fait des objets sculpturaux en céramique et en même temps, il peut y avoir une dimension plus sociale dans des projets un peu plus communautaires et tout ça.
OK, donc on va devoir voir la suite de cet assaut-là dans les prochaines années. Puis là, dans plus court terme, tu as deux expositions qui arrivent de l'autre côté de l'océan.
La première, ça sera Olive Art. Le vernissage, c'est le 18 mai. C'est pour le lancement de la collection Art Vault. Et ce sera un peu les retrouvailles avec Concordia, parce que c'est tous les anciens étudiants les étudiants gradués de Concordia qui vont montrer leurs pièces. Et ça sera jusqu'au 28 mai. Ensuite, à la galerie Erga, je vais montrer aussi des pièces du 18 au 31 juillet. Donc, à Montréal toujours.
Voilà. Donc, à suivre ces deux expositions-là pour les gens qui sont à Montréal, pour ceux qui sont à Marseille, suivre aussi pour l'association qui se construit encore en ce moment. Merci Eva.
Bye bye, merci Sido.
Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 3 des Impostures avec Eva Tellier comme invitée, enregistré dans les studios de Radio-Galère à Marseille. Les Impostures est un podcast réalisé, animé et produit par Sidonie Gaulin, avec l'aide de Majdouline Rami à la prise de son et à la consultation au montage. Je remercie aussi Alice Zérini-Lorez qui a illustré cet épisode, Maëva Gauthier-Chartrand qui a créé l'identité graphique du projet et Antoine Desrochers-Godin qui a composé le jingle et les virgules sonores. Et surtout, merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute précieuse et indispensable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez l'épisode autour de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite.